aujourd'hui, nous allons retourner à Chichen Itza, peut-être le site le plus merveilleux du Yucatan mexicain, cette immense péninsule qui s'avance vers la mer des Caraïbes. Et puis, ensuite, nous nous déplacerons vers le sud et nous irons visiter un autre endroit que le monde entier a appris à connaître dans les années 50, c'est Palenque. J'aimerais aujourd'hui que l'on vive un peu ces aventures archéologiques telles qu'elles ont existé au début de ce siècle. Mais la deuxième histoire se passe dans les années 50. C'est vous montrer que si un jour on a parlé de la découverte de Toutankhamon, un autre jour on va parler de la découverte du tombeau de Pacalbouclier. C'est une aventure fascinante qui va se dérouler sur 3 ans jusqu'à ce qu'on trouve la première véritable hypogée, la première tombe aussi riche que les Mayas nous aient fournie en ce 20e siècle. Thompson, cet Américain qui a passé plus de 30 ans de sa vie avec un seul but, celui de fouiller un puits, de descendre avec son scaphandre à l'intérieur de ces eaux verdâtres du puits de Chichen Itza. Attention, ce n'est pas un puits comme on l'entend, c'est un effondrement de la roche calcaire, nous en avons parlé la dernière fois, un effondrement qui nous donne un espace extraordinaire de 60 mètres de diamètre sur 20 mètres de fond, avec des eaux qui paraissent insondables, mais des eaux dans lesquelles on avait fait plonger, on avait poussé, on avait sacrifié de jeunes gens et de jeunes filles en l'honneur du dieu de la pluie. Car au Yucatan, il pleut beaucoup, c'est vrai, mais l'eau ne reste pas en surface, elle descend vers la nappe phréatique. Et après cette incroyable découverte du puits de Chichen Itza, avec les trésors, les bijoux, les ossements aussi terrifiants que Thompson a pu petit à petit découvrir sur des semaines et des semaines de fouilles, vers la fin de sa vie, bon, c'est vrai que cette fouille ou ces fouilles du puits sacré, c'était pour lui la réussite absolue de sa carrière. Et juste après, eh bien lui, il estimait que sa plus grande réussite, c'était la découverte de ce qu'il a appelé la tombe du grand prêtre. C'est un peu l'aventure que j'aimerais vous raconter tout d'abord pour vous mettre un peu dans cette ambiance de recherche archéologique lorsqu'on découvre un tombeau avec des circonstances un peu romantiques, un peu curieuses comme Thompson va les vivre ici à Chichen Itza. Chichen Itza, je vous le rappelle, c'est un site aujourd'hui très visité, extrêmement connu, qui se trouve en plein cœur de ce Yucatan. Allez, grosso modo, si on prend une carte, il y a une petite capitale pour le Yucatan qui se nomme Mérida. Et on est à 120 km de Mérida et on est à peu près à 200 km de Cancun, que tout le monde connaît sur la côte Caraïbe. Donc on est en plein cœur de la zone Maya, tout au nord de cette péninsule. Et c'est là que un jour, Thompson, qui avait acheté l'hacienda, qui avait acheté le territoire sur lequel il vivait, enfin ce site archéologique, balayait le sol d'un petit temple. Un temple qu'il avait découvert au sommet d'une pyramide, qui n'était pas très haute, elle faisait une quinzaine de mètres, peut-être 13 mètres de hauteur. Elle est encore en ruine aujourd'hui. On l'a laissée telle qu'elle. C'est peut-être une des plus sympathiques à visiter à Chichen, parce qu'on se retrouve exactement à l'époque de Thompson. Il y a une énorme tête de serpent qui gît au pied. On devine vaguement qu'un jour il y a eu un escalier, qu'il y a eu des colonnes au sommet. On devine ce temple à travers la broussaille. Et là, il a aperçu exactement au milieu de la pièce qu'il était en train de nettoyer, c'est-à-dire sur la surface du temple, deux sortes de grosses pierres, deux grandes dalles qui étaient soigneusement jointes. Et là, il dit, c'est pas normal, elles sont trop bien polies. Je vais essayer d'en soulever une. Et il a pensé qu'il y avait un dispositif quelconque. Alors, on le voit travailler avec précaution, il a ses ouvriers à disposition. Et à sa grande surprise, il découvre un puits absolu, enfin quelque chose de complètement sombre et vide sous ses pieds. Et il y avait des parois qui avaient un caractère assez curieux, c'est qu'elles étaient construites avec des pierres qui étaient bien écarillées, qui se chevauchaient. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Des pierres qui se chevauchaient comme des tuiles, hein, les unes sur les autres, comme cela. Ça, c'est une construction assez maya. Mais il se demandait bien pourquoi on avait pu creuser un puits aussi bizarre au sommet d'une pyramide. Alors là, on s'imagine, Thompson, qui est un rêveur, qui avait aperçu pour la première fois son site, on a vu la façon dont il a attendu pour plonger dans son puits, il va pas attendre le lendemain, il va vouloir commencer tout de suite. Alors au moment de descendre, bon, il a d'abord fait une découverte. Il le décrit très bien dans son journal-là. J'ai pris quelques notes pour vous le raconter. La personne qui occupait déjà ce puits, c'était un fantastique serpent. Il le décrit très bien. Ça, c'est la petite surprise du départ. Il était juste à 4 mètres en dessous de lui, puis c'est la profondeur du puits. Il va d'abord devoir s'en débarrasser. Et bon, il va simplement lui tirer dessus. Et il va descendre dans ce puits avec une corde, et il va se laisser glisser comme cela. Et il va remarquer, c'est la première chose qui va le surprendre, ce sont des ossements humains. Je vous rappelle que les dalles étaient bien scellées, donc au pire, c'était au 10e ou 11e siècle de notre ère qu'avaient eu lieu ces enterrements. Mais ces os avaient été dévorés, comme s'ils avaient été broyés comme cela. Et il avait bien remarqué, d'après le nombre de ces ossements, qu'ils avaient dû appartenir à deux personnes. Bon, il était déçu de rien trouver d'autre. Il a d'abord nettoyé le sol, il a ramassé ses os. Il était déjà un peu archéologue, hein, c'est déjà un peu la période scientifique. Et tout à coup, sous son pied, il sent une autre dalle qui était au contraire mal placée. C'est-à-dire comme si on avait mis un énorme bouchon carré, comme cela. Et il le lève, et dessous, qu'est-ce qu'il trouve? Un autre puits, et encore un squelette. Alors ça commence à être un peu surprenant. Essayez de vous mettre dans la peau du personnage. Il retrouve une autre dalle une fois qu'il a déblayé son sol, parce que bien sûr, il y a de la poussière, il y a de la terre. Et sous celle-ci, il retrouve encore un autre puits et encore une autre tombe. On croit rêver, hein. Alors effectivement, il dégage la quatrième dalle qu'il va retrouver, et comme prévu, sous les eaux, il y a encore une dalle, donc on est déjà au cinquième niveau. Ça, c'est la même journée, c'est le même travail, hein. D'un seul coup, là, il devient un peu frénétique, et il remarque qu'il vient d'atteindre, en fait, en faisant son calcul tout simple avec sa corde, qu'il est descendu jusqu'au sol, c'est-à-dire jusqu'au niveau même de la construction de la pyramide. Et puisque elle s'élevait directement, c'est que tout le Yucatan, je viens de vous le dire, est construit, enfin, est naturellement posé sur une plaque de calcaire, donc sa pyramide l'était aussi, et on est sur une masse extrêmement dure. Et là, Thompson, bon, ben, il espérait que cet obstacle, ce serait la fin de son mystère, qu'il trouverait un but peut-être plus intéressant, mais là, il se retrouve devant les mêmes dalles. Alors ça, c'est vraiment le début du mystère véritable. Il est encore plus intrigué et il distingue alors, une fois qu'il a enlevé cette dalle, des marches qui sont taillées à même le rocher et qui conduisent à une pièce qui a été creusée vraiment dans la roche. Et là, on a l'impression de vivre la recherche de l'arche perdue, enfin les aventuriers les plus incroyables, essayer de comprendre la fièvre qui l'occupait et en même temps ce côté un peu dramatique, parce que des ouvriers indiens qui aident un homme comme cela et qui pénètrent dans le noir, dans cet inframonde, il devait y avoir ce jour-là une ambiance. Il faisait 40 degrés dehors, il faisait peut-être 10, 15 degrés à l'intérieur. On pénétrait vraiment dans le royaume des morts. À chaque étage, on remplissait un panier avec des ossements. Vous voyez un peu l'ambiance ? Bon, on va continuer tout à l'heure, on va voir ce qu'on trouve dans cette dernière salle et on va descendre ces escaliers.
Thank you.
On est en plein monde fantastique, on a l'impression que tout cela se mêle un peu au réel, et je ne fais que reprendre les notes de Thomson, c'est vraiment comme cela que ça s'est passé. Bon, il ne va pas se laisser impressionner outre mesure, il décide de poursuivre son travail, notre Thomson, et là, dans cet escalier, dans ce couloir, il trouve des cendres. Mais attention, pas n'importe quelle cendre, des cendres de bois. Tout était comblé, c'était une grande partie de la chambre et des marches qu'il avait découvert étaient complètement recouverts de cendres de bois. On ne sait toujours pas pourquoi les Mayas avaient brûlé autant de bois. Alors pour dégager ce passage, il n'y avait qu'un moyen, il fallait se coucher sur le dos et avec les pieds, il fallait pousser les cendres dans un panier et puis ensuite passer par-dessus sa tête, les passer aux ouvriers qui faisaient la chaîne à travers tous ces puits successifs, on a l'impression d'être dans un immeuble à étage, hein, et pour pouvoir ensuite les passer. Il y avait son fils encore qui était dehors, qui vidait les paniers au fur et à mesure. C'était pas de l'archéologie au sens où on la ferait aujourd'hui, c'est-à-dire que là, on aurait carrément compté les cendres, les ossements, etc. Non, là, il était un petit peu pressé. Et notre archéologue, il avait des cendres jusqu'au cou, il s'aidait des mains, des pieds, simplement pour avancer plus vite, parce qu'il voulait absolument trouver le but, parce que jusqu'à maintenant, il y avait des os, il n'y avait pas un seul bijou, il n'y avait rien du tout. Et lorsqu'il a eu dégagé une surface qui était assez importante, il va faire descendre quatre de ses aides, des Mayas, des indigènes qui vivaient dans la région, pour l'aider. Et là, il atteint petit à petit la fin de la pièce, il est épuisé, et il va arrêter son travail, quand tout à coup, il retrouve une dalle de pierre, mais qui paraissait simplement appuyée, je dirais, posée contre le mur, hein, le mur de la salle. Alors, il empoigne la dalle, il la tire avec force, il met un palan derrière, et puis elle cède assez rapidement, et derrière elle, un immense trou, un trou béant, et qui s'ouvre directement dans le sol, en fait, de la pièce. Et alors, là, ça a dû être un instant absolument fou. Un souffle glacial qui monte comme ça des profondeurs, toutes les bougies s'éteignent, parce qu'il travaille à la bougie, bien sûr, enfin, Vous voyez une fois de plus l'ambiance, et surtout les ouvriers complètement terrorisés, et qui essaient de voir aussi Thomson, qui est au bord du trou, il sait pas du tout ce qu'il y a derrière, on voit plus rien du tout, tout le monde s'enfuit, enfin c'est la panique absolue, et finalement on rallume les chandelles, et il se penche sur l'ouverture, et d'après le son de sa voix, il découvre qu'il est véritablement sur un puits incroyable, il se penche, et il voit que c'est totalement cylindrique et que ça s'enfonce verticalement dans le sol. Alors il fait allumer une petite lanterne, vous savez, ces petites lampes qu'on utilise pour les mines, enfin pour les mineurs de fond. Il l'accroche au bout d'une ficelle et il prend en fait son, c'est pas vraiment une ficelle, vous savez ce qu'on utilise pour les mesures, comment est-ce qu'on appelle ça, un mètre ruban, et il fait descendre le tout et puis il regarde sur son mètre, il est à 17 mètres de profondeur avec sa lampe. Alors le lendemain, il va préparer sa descente. Puis le surlendemain, il va descendre. Alors moi, je vois Thomson qui descend dans sa pyramide, il a carrément un couteau entre les dents, et puis il part à l'attaque véritablement avec ses cordes et sa lampe. Et une fois qu'il a touché le fond de son puits, au centre de sa pièce, la première chose sur laquelle il trébuche, c'est une incroyable perle de jadéite de 12 cm de diamètre. Essayez de penser, enfin, vous voyez un objet qui fait 12 cm, une boule énorme de la pierre la plus précieuse que les Mayas n'aient jamais taillée. Vous me direz que ça n'a pas énormément de valeur, le jade. Mais pour Thomson, c'était le plus gros morceau de jade que l'on ait jamais trouvé dans le monde maya. Et puis tout autour, il va voir qu'il y a partout quelque chose. Il y a une amulette qui est juste à côté de la même matière. Il voit des fragments. Il a une toute petite lampe, hein, des fragments translucides comme de l'albâtre. Il voit un vase avec des bijoux de jade qui sont éparpillés sur le sol. Il y a des objets de nacre, des colliers de perles, des vases, des gobelets. Et ainsi, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé la tombe la plus incroyable que l'on ait jamais pu voir chez les Mayas jusqu'à cette époque. Et ce qui l'intriguait vraiment, il était sûr d'avoir trouvé un tout grand personnage. Lui a complètement rêvé, il a pensé que c'était le grand prêtre, il a dit que c'était carrément le serpent à plumes précieuses qui avait enterré dans cette tombe, ce qui n'était pas possible. Mais enfin, il s'est inventé tout un tas de choses, on comprend bien. Il est un peu dans la même situation que Schliemann à Mycène, qui tout à coup avait envie de refaire l'histoire de Troie, enfin de refaire l'Iliade et l'Odyssée. Ça, je vous assure qu'on en fera une fois une émission. Mais pour revenir à Thomson, sa vraie question, c'était de savoir, mais enfin, tout au fond, je suis descendu de 13 à 15 mètres pour la pyramide. je suis encore descendu du double, des 17 mètres supplémentaires. On était à pratiquement 30 mètres de profondeur. Et là, il trouve une seule tombe, un seul cadavre, mais il en a trouvé à tous les étages. Alors, qui sont ces autres squelettes? À qui ont-ils appartenu? Ça, c'est la vraie question. Alors, il commence à deviner quelque chose qu'on ne connaissait pas vraiment à l'époque, c'est que peut-être à chaque étage, il y a eu un sacrifice pour accompagner ce défunt dans l'autre monde, pour lui permettre de créer tous ces niveaux de l'inframonde et pouvoir passer dans l'au-delà sans aucun problème. Bon, c'est une inconnue. Les américanistes vont avoir beaucoup d'expériences semblables par la suite. Et je vous avoue que ça m'est souvent arrivé de découvrir comme ça des tombes de sacrifiés à côté d'une tombe importante. Et c'est peut-être une chose qui était difficile à résoudre pour l'époque. Mais ce travail qu'avait fait Thompson, il allait involontairement permettre, pas par ses hypothèses qui au départ étaient complètement poétiques, peut-être qu'il avait effectivement une imagination un peu trop fertile, mais il va permettre, une fois de plus, de faire avancer le côté scientifique dont on a déjà parlé. C'était la première fois que tout à coup, on pouvait faire une description complète. On pouvait non seulement s'imaginer, mais vivre peut-être même un enterrement comme il a eu lieu au 10e, 11e siècle de notre ère. Et tout à l'heure, je vous ferai vivre une journée funéraire en 683 de notre ère, dans la plus belle tombe, dans le plus beau site que les Mayas aient jamais construit. C'est peut-être la première fois que dans mon cours, je vais vous parler d'un sujet qui me touche d'extrêmement près, parce que la personne dont je vais vous parler, c'est la personne qui m'a permis un jour de m'intéresser à l'archéologie, c'est Rousse Lullier. Rousse Lullier, c'est quelqu'un qui parle français comme vous et moi, mais qui parle parfaitement espagnol, il est à la fois parisien, à la fois cubain, mais ça a été le plus grand archéologue du Mexique de cette moitié du XXe siècle. Et c'est un peu à lui que je pense parce que c'est quelqu'un qui est mort en 79 et qui a été enterré sur le site même de Palenque en face de sa plus grande découverte. On lui a fait une mini pyramide en face de la pyramide des inscriptions. Où est-ce que je peux vous, ou comment est-ce que je pourrais vous situer Palenque? Palenque, il faut descendre un peu cette péninsule du Yucatan, et si vous imaginez le Mexique, il y a une espèce de grand arrondi comme ça, ce qu'on appelle le golfe du Mexique. Et à l'intérieur de ce golfe du Mexique, lorsqu'on pénètre dans les terres, lorsqu'on va dans la jungle, lorsqu'on reste dans ces terres extrêmement chaudes, avec des arbres de 40 mètres de haut, avec une végétation incroyable, on a d'abord une plaine qui fait pratiquement 100 kilomètres, et tout à coup, on se retrouve devant la Sierra Madre. Et je situe cet endroit parce que la Sierra Madre, c'est le fond d'un décor de théâtre. Les premiers petits frémissements de la Sierra Madre vont servir de décor au site de Palenque, qui va s'appuyer contre les premières collines, faire un balcon, créer un balcon artificiel avec 100 kilomètres de plaine absolue jusqu'à la mer, c'est-à-dire une étendue incroyable qui se trouve devant vous, carrément sous votre pouvoir. Ça, c'est Palenque. Et à Palenque, durant quelques dizaines d'années, durant quelques siècles, il y a eu une dynastie, il y a eu un Louis XIV, il y a eu un roi soleil que nous connaissons depuis quelques mois à peine, parce que nous lisons maintenant les hiéroglyphes qui s'y rapportent, et ce personnage s'est fait diviniser, a été divinisé à Palenque, et a demandé une architecture complète à son nom pour le fêter, pour le rendre éternel, comme un pharaon d'Égypte a fait Khéops. Eh bien, Pakal Bouclier a demandé qu'on construise le centre cérémoniel de Palenque, même après sa mort. Alors, c'est un peu l'aventure d'aujourd'hui, c'est une aventure assez curieuse qui commence en 1949, lorsque Rousse L'Huillier arrive sur le site et qu'il demande de nettoyer la plus belle des pyramides de Palenque, celle qu'on appelait pyramide des inscriptions, qui était cachée sous la végétation. Stefan Skarsgård, tous ceux du XIXe siècle l'avaient déjà dessinée, mais elle était perdue sous les arbres et la végétation. Et Rousse L'Huillier, dans une campagne de fouilles assez longue, même plusieurs campagnes, on va le voir, va nettoyer cet endroit et va remarquer que cette pyramide a été construite plusieurs fois. C'est-à-dire, il y a une sorte d'oignon. On a des pelures d'oignons les unes sur les autres, et en haut, il y a un superbe temple avec cinq portes magnifiques, des portiques, une sorte de pronaos comme cela, avec des stucs, des motifs incroyables, très baroques, et à l'intérieur, plus de 600 hiéroglyphes posés sur des plaques de calcaire. Raison pour laquelle on l'avait appelé le temple des inscriptions. Et je vous ai situé cet endroit parce que Palenque, c'est aussi un lieu de transmission fantastique. On est à côté d'une autoroute. Attention! Pas n'importe quelle autoroute, l'autoroute des Mayas, c'est-à-dire un fleuve amazonien, genre Amazon bien sûr, mais qui s'appelle l'Usumacinta et qui est très près du site et qui permet d'avoir une communication entre la mer et carrément l'intérieur des terres jusqu'au Guatemala, puisqu'il forme en fait, il est la frontière avec le Guatemala. Sur des centaines de kilomètres. Alors, je vous ai situé l'endroit, vous voyez la température, vous imaginez le décor, et maintenant, dans ces années 40, vous venez nettoyer ce site, et il y avait quelqu'un qui l'avait visité tout au début du siècle, dans les années 20, un certain Blom, qui a épousé une petite Suisse d'ailleurs, qui vit toujours dans l'état des Chiapas, qui est une personne d'âge extrêmement avancé, Gertrude Duby-Blom, une bernoise, qui vit à San Cristobal de Las Casas. Enfin, ne sortons pas trop du thème, mais Blom avait été le premier à se balader sur le site, et en 1920 ou 23, il avait aperçu au sommet du temple, à l'intérieur, sur le sol, des espèces de bouchons de pierre. Des petits bouchons qui font, allez, la grandeur d'un verre de vin blanc, comme ça, grosso, un peu plus même, hein, un verre à sirop. Hein, c'est-à-dire, vous avez vraiment une pastille comme ça de 8 à 10 cm de côté, qui est totalement coincée dans la dalle de calcaire. Et il y en a comme ça une petite dizaine. Et alors, Blom les avait signalés. Mais il avait passé outre. Il a raté plusieurs choses comme ça. Rousse L'Huillier a remarqué ces bouchons et s'est dit, ça n'est pas normal, je vais essayer de les soulever. Et il a soulevé ces bouchons de pierre et il a trouvé une dalle. Et en faisant le nettoyage du coin, il a trouvé un trou dans la dalle. Alors ça a été la panique. Il a compris que des fouilleurs clandestins avaient déjà pénétré dans cette partie du temple et avait creusé le sol. Alors, de manière non pas frénétique, comme Thomson tout à l'heure, mais de manière extrêmement scientifique, il va dégager cet endroit, il va descendre de quelques centimètres, il va trouver des marches. Ça, c'est la grande révélation, mais il remarque que tout a déjà été fouillé. Et il devra attendre plusieurs jours avec tous ses ouvriers pour finalement trouver non seulement l'escalier. Attention, on rentre dans l'irréel, on rentre pratiquement dans la philosophie, dans les choses les plus étranges, les plus mystiques des Mayas, à côté des grandes marches d'escalier. Attention, hein, un bel escalier, il fait carrément, qu'est-ce que je vais vous dire, 1m20, 1m30 de largeur, avec des marches qui font bien 20 à 25 cm de hauteur. Juste à côté, sur la partie droite de l'escalier, Rousse L'Huillier a découvert un tout petit escalier miniature qui suivait le premier, c'est-à-dire une sorte de... Comment l'expliquer ? Une sorte de conduit, parce qu'en fait, il s'agissait de deux petites plaques qui étaient collées sur le bord de la paroi et qui étaient vides à l'intérieur, qui créaient un vide à l'intérieur. Imaginez-vous cette sorte de tuyau qui saute d'une marche à l'autre et qui descendait dans les profondeurs. Ça, c'était le premier vrai mystère de cette découverte. Et Rousse L'Huillier a été paniqué, il s'est dit, mais si ça a été fouillé clandestinement, il y a une tombe juste là, à quelques centimètres, qui a peut-être déjà été violée, mais non. Il continue à faire ses excavations et finalement, il va trouver à partir de la 3e ou 4e marche un ossement, un petit pendentif. Et il se dit, ça y est, je suis dans du terrain vierge. Mais alors, ce qu'il a compris immédiatement, c'est que les Mayas avaient comblé volontairement tout l'escalier. Attention, nous sommes partis pour 3 ans. L'émission sera longue. Il faudra 3 ans pour vider l'escalier de la tombe de Palenque, descendre 2 grandes volées de marches jusqu'en dessous du sol de la pyramide, c'est-à-dire descendre de plus de 20 mètres en sous-sol, j'entends, à partir du temple, pour atteindre finalement le miracle de Palenque. Et en route, c'est vrai que Rousse Lullier a fait des découvertes qui étaient de plus en plus incroyables. Un peu plus bas sur les marches, il avait trouvé une pierre ronde qui était mal formée, mais qui avait une forme un peu étrange, que les Mayas avaient dû enterrer volontairement. Et alors, pour la première fois, il a trouvé du cinabre. Il faut que je vous dise ce que c'est que du cinabre. C'est du sulfure de mercure. Est-ce que vous avez déjà vu du sulfure de mercure? Pas forcément. Eh bien, c'est une poudre rouge. C'est du rouge absolu. C'est superbe. C'est un ton comme ça, rouge un peu foncé, un peu violacé comme cela. Et ça ressemble vraiment... Allez, je vous donne déjà la réponse. Ça ressemble à la couleur du soleil couchant. C'était l'idée du Maya. Chaque fois qu'on enterrait quelque chose ou quelqu'un, chaque fois qu'un monument mourait, chaque fois qu'une pyramide mourait, qu'une stèle mourait, qu'un monument quelconque était éliminé chronologiquement, on le peignait au cinabre rouge. Ça voulait dire qu'on rendait la chose mortelle et qu'on la faisait mourir. Donc une pierre recouverte de cinabre, c'était déjà en soi l'idée d'un enterrement. À côté, il y avait des boucles d'oreilles. Et puis, petit à petit, il est rentré vraiment dans cette maçonnerie inviolée. Et il a retrouvé une caisse de pierre. Alors là, ça c'est aussi les drames de l'archéologie. Je vous signale que nous sommes en 1949, au mois de mai. C'est le début de l'aventure. Elle finira en 52, je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, il va retrouver une caisse de pierre, ou plutôt un de ses ouvriers va retrouver une caisse de pierre. Et quand je dis une caisse de pierre, imaginez-vous un grand cajot avec un couvercle. C'est exactement cela. Or, dans tout le Mexique, on a retrouvé cela jusqu'à l'époque aztèque. Je vous rappelle que tout ce qui était découvert se situe dans les années 600, 680, 685 de notre ère. Hein? Ça, c'était donné une date exacte. Enfin, même à l'époque aztèque, en 1500, on avait le même genre de coffre-fort. Et à l'intérieur de ce coffre-fort, l'ouvrier a dû trouver quelque chose. Mais le temps qu'il appelle l'archéologue général, le coffre était déjà vide. C'est-à-dire qu'il ne restait plus qu'un morceau de plâtre, un peu de cinabre. Alors, où a-t-il mis les quelques boucles d'oreilles, les quelques bijoux? Ça, on ne le saura jamais, mais à partir de là, Rousse Lullier est sans arrêt resté sur les fouilles pour descendre petit à petit cet escalier. C'est-à-dire pratiquement 3 années de surveillance constante. Et là, il va descendre, il faudra 4 campagnes complètes de fouilles. Je vous rappelle que nous sommes en pleine jungle. Quand il pleut, quand il tombe des cordes, quand le temps est humide et impossible, on ne peut rien faire. Il y a trop de boue, on doit s'éloigner du site et l'abandonner. Donc on fait cela dans ce qu'on appelle soi-disant la saison sèche. Et pour faire ces 2 volées de marche, pour les découvrir, il faudra que je vous les décrive un peu. Je vous ai dit que ces escaliers faisaient 130 cm de largeur, 1,30 m. Mais vous pouvez être debout à l'intérieur de ces escaliers. C'est vraiment une cage incroyable d'escaliers avec des voûtes mayas. La voûte maya, comment vous l'expliquez aussi? C'est carrément le fait d'avoir 2 pierres qui s'appuient l'une sur l'autre pour faire une pointe, un triangle si vous voulez, et puis une petite pierre qui est posée par-dessus. Mais le poids de la pyramide était tellement énorme que ces gens-là ont dû mettre des poutres, mais des poutres de pierre pour rendre tout cela solide, et on descendait comme cela en cascade, chaque fois avec un petit toit de hutte en-dessus de votre tête, si vous voulez. Donc on sent ce rythme incroyable de la descente, et il faudra 4 campagnes, ça je l'ai dit, mais il faudra enlever 125 mètres cubes de rochers, de cailloux, enfin de pierres, de ciment, 325 tonnes de matériaux que les Mayas avaient mis dans ces couloirs et dans ces escaliers avant de faire quelque chose que Rousse Lullier ne connaissait pas encore. Donc il n'a rien trouvé jusqu'à la 2e volée de marche, après pratiquement 200 et quelques mètres cubes inutile pour lui de fouilles, et c'est à la 18e marche qu'il est finalement tombé devant un mur. Mais attention, ça n'est que le début de l'aventure. Nous sommes maintenant à 18 mètres sous le temple principal. Nous sommes pratiquement en bas de cette deuxième volée de marche. On tombe sur un mur de chaux absolument construit derrière ce gravat qu'on a déjà enlevé. Et on trouve une petite offrande, mais rien de spécial. Ensuite, il y a un deuxième mur de pierre. Mais alors là, ce sont des pierres qui sont beaucoup mieux placées. C'est-à-dire qu'on retrouve au pied de ce mur quelque chose d'assez étrange. Ce sont des barres de pierre qui sont posées sur le sol, sur une sorte de cache, ce qu'on appelle une cache à offrande, hein, un coffre-fort à offrande. Et là, il y a partout du cinabre, c'est-à-dire ce sulfure de mercure. Et là, on découvre vraiment qu'il y a dû y avoir une cérémonie très importante. On retrouve des coupelles, il y a des coquilles Saint-Jacques qui étaient percées, donc qui avaient dû servir de collier, qui étaient pleines de cinabre. Et dans ce cinabre, on avait déposé des bijoux, il y avait de nouveau de la jadéite, des pétales de jadéite pour faire des boucles d'oreilles, des perles brutes superbes. Et derrière ce mur, là nous sommes maintenant à la 21e marche, on tombe sur un couloir qui était encore bouché, cimenté avec des moellons, et tout au fond du couloir, on retrouve la chose la plus importante depuis le début des recherches. Un petit escalier de deux marches. Vous montez, vous tombez à nouveau sur une cache. Et à l'intérieur de cette cache, il découvre des squelettes. On a cru au départ qu'il y en avait cinq, mais finalement on va décompter six squelettes qui ont été vraiment jetés, là je parle des cadavres, de façon tout à fait désinvolte. Ils ont tous une position un peu cruelle, comme ça, comme bloqués en foetus. On a l'impression de souffrance, on a l'impression de quelque chose d'étrange. Et on va les décompter, là je vous parle de manière scientifique naturellement, on va voir exactement pourquoi ces gens sont là, et on devine petit à petit qu'il s'agit une fois de plus de jeunes gens et de jeunes filles qui ont été sacrifiés. On sait toujours pas pourquoi, mais tout à coup un ouvrier en nettoyant le couloir découvre une dalle parfaite, mais immense, grande comme une porte, comme une de vos portes de maison, mais en forme triangulaire, c'est exactement dans la forme de la voûte maya qui se trouvait sur le côté du couloir. Mais elle est tellement bien fermée, jointe, qu'on va devoir creuser un petit trou sur le côté. Et c'est bizarrement un vendredi 13, le 13 juin, que l'on va enlever ce premier bouchon de pierre à côté de la dalle, et on va finalement apercevoir l'intérieur. Ça, c'est un grand instant. C'est un peu comme le premier instant où l'on a vu la tombe de Toutankhamon. Je crois que ça a été exactement identique. On voit Rose Lullier passer sa torche à l'intérieur du trou et il découvre une salle fantastique. Une salle qui est pleine de stalactites qui descendent du plafond, mais très, 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 très finement. C'est-à-dire des sortes de petits rubans comme ça de calcaire qui descendent du plafond. Et au milieu, il voit un énorme monolithe entièrement gravé. Il y a des gravures partout. Il y a des sculptures, il y a des stucs, il y a des offrandes dessus. Il y en a dessous. Il voit des énormes têtes de stucs qui ont été posées carrément sous l'énorme dalle. Et puis, il voit surtout qu'il est dans une salle qui est totalement hors du commun. Il s'imagine maintenant qu'il est dans un tombeau, mais il ne sait pas où est le tombeau. Et c'est seulement en observant de plus près qu'il tout à coup il comprend que ce qu'il voit comme une énorme dalle, cette immense chose au centre, c'est le plus grand sarcophage que l'on ait jamais trouvé en Amérique. Et là, il faudra de la patience. Je vous ai dit qu'on était vendredi 13, c'est seulement le 15 juin qu'on va pouvoir finalement pénétrer difficilement à l'intérieur, et il faudra commencer à répertorier chaque petit objet qui se trouve sur la dalle. Il y avait une centaine de pendentifs, il y avait des pièces de nacre, il y avait des conques marines qui sont des instruments de musique chez les Mayas. Il a fallu tout dessiner, il a fallu prendre des plans. On a retrouvé ces deux superbes têtes qui sont modelées dans du stuc. Ce sont les plus beaux portraits que les précolombiens nous aient laissés. Ce sont des têtes qui ont dû un jour être arrachées des parois d'un temple pour être simplement offertes, comme si le fils, le cousin, quelqu'un avait voulu simplement offrir son visage, son portrait, sa photographie aux défunts qu'on ne connaît pas encore. Et puis il y avait toutes sortes de coupelles, des vases, enfin un travail énorme. Puis ensuite il a fallu enlever toutes ces stalactites du plafond, il a fallu faire le tour de la dalle, prendre des photos, encore dessiner les gravures incroyables. Vous savez, on parle toujours, quand on parle de la tombe de Palenque, on parle toujours du cosmonaute qui est dessiné dessus. C'est un dessin étrange que tout le monde connaît parce qu'il a fait le tour du monde. C'est effectivement une dalle qui est peut-être la plus belle gravure que l'on ait jamais retrouvée. En fait, on va savoir très rapidement qu'il s'agit de l'image même du défunt. Et puis, on comprend que Par le nombre de personnages qui sont gravés autour, on a représenté l'inframonde, c'est-à-dire l'enfer des Mayas, les neuf seigneurs de l'enfer, là, qui arrivent tout à coup de manière extraordinaire, comme s'ils étaient présents, comme si on était à l'instant de l'enterrement, et on se demande bien ce qu'il y a sous la dalle. Alors, il faudra des mois de patience. C'est seulement au mois de novembre, je vous rappelle qu'on était en juin, le 13 juin, au mois de novembre 1952, qu'on va faire un petit trou avec une perceuse, et on va enfiler un fil de fer à l'intérieur. Et d'abord, il a raté, on en refait un deuxième. Et là, avec ce fil de fer, on ressort le fil et on trouve uniquement de la poudre rouge. On est encore en plein cinabre. Tout l'intérieur de ce sarcophage est entièrement recouvert de cinabre. Alors, il faudra soulever la dalle. Et ça, c'est un sacré travail. Elle pèse 5 tonnes. Elle est cachée dans cette salle avec ses voûtes incroyables, Maya. On est maintenant carrément en dessous du niveau du sol. Vous avez 20 mètres de pyramide en dessus de vous, donc une pression énorme. Et là, il faudra utiliser des vérins de camions, des bûches. Enfin, ça va être un travail très considérable. Mais sous la dalle, qu'est-ce qu'on trouve? Une autre dalle. Et une dalle qui a une forme très étrange. Comment vous la décrire? Une forme de cartouche. Vous savez, l'idée du cartouche égyptien, c'est une forme qui prend la ligne d'un corps, comme ça, avec un peu plus de place pour les pieds et l'arrondi pour la tête. Une dalle parfaite posée dans un bloc unique de pierre, avec, encore une fois, des tout petits bouchons de pierre, afin que ce soit bien jointoyé, bien fermé. Et là, sous cette dalle de 3,80 m sur 2,80 m, je suis obligé de vous donner des dimensions, parce que ça donne un peu la proportion, le gigantisme de cette construction. Mais on va enlever le premier bouchon. Qu'est-ce qu'on retrouve? Encore du cinabre. Mais en prenant une torche rousse l'huilier à travers cette petite ouverture là qui fait à peine 4 cm, cette dalle qui fait peut-être 7 à 8 cm d'épaisseur, il aperçoit pour la première fois un bout d'os. Là, il a compris. Il est vraiment dans la tombe. Il est vraiment dans le sarcophage, dans un sarcophage géant. Et on va utiliser des poutres, des cordes qu'on va placer dans ces trous de bouchons. Et finalement, on va apercevoir pas quel bouclier. Cette ouverture de la sépulture, elle va nous laisser le trésor le plus incroyable. Des bijoux, un masque extraordinaire qui était fait de dizaines de pièces de jadéite, avec des yeux blancs en nacre, avec du noir au centre. Vraiment un regard extrêmement dur et fort du personnage, des ceintures, des bracelets. Et puis, avec une analyse extrêmement précise, on va même se rendre compte qu'en 683, ce personnage portait un pagne qui était tissé de fil rouge, encore une fois l'idée de la mort, de ce crépuscule, de ce soleil couchant. On fait des relevés, on travaille tout cela, et finalement, on peut dire que 1300 ans après la mort de Pascal Bouclier, on peut maintenant recréer cet enterrement. C'est peut-être ce que je vais vous faire pendant quelques minutes. On va prendre une torche et on va descendre, comme l'ont fait les grands Mayas de l'époque, pour enterrer Pascal Bouclier et voir un peu quelle était l'idée qui tournait autour de ce personnage. Parce qu'après tout, s'il était là et mis en valeur de cette façon, si on avait construit une pyramide entière en dessus de ce sarcophage, c'est que peut-être le sarcophage avait été construit, gravé, sculpté, avant même, bien sûr, la mort du personnage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît même le nom de son fils. Pascal Bouclier, ça veut dire « celui qui protège le soleil de son bouclier », le défenseur du soleil. Son fils, d'après les hiéroglyphes, nous l'avons appelé Chan Balun. Chan, c'est le serpent, Balun, c'est le tigre, ou plus exactement le jaguar américain. Son fils, au moment des funérailles, il va devoir transférer son père dans sa dernière demeure, et je vous l'ai dit aussi, on a fait la tombe certainement avant la mort du souverain, c'est-à-dire qu'on a creusé le sol, on a élevé les parois, on a placé, enfin sculpté ces 9 personnages de l'inframonde, le côté solaire, la pluie, la fécondité, le sarcophage lui-même, enfin toutes sortes de symboles qui reviennent là-dessus, la dalle est extraordinaire, cette voûte qui monte dans une salle qui fait pratiquement 9 mètres de profondeur sur 4 de large, la voûte elle monte à plus de 7 mètres de hauteur, ça n'est pas n'importe quoi, hein, c'est une construction. Un tout petit détail, tout cela est fait en pierre. Ces gens-là n'ont jamais eu un seul outil de métal. Tout ce qu'ils ont gravé, creusé, taillé a été fait avec un simple silex et un marteau de pierre. Je crois que c'est important de le savoir pour se rendre compte de l'énergie qu'ils ont dû dépenser pour construire cela. Et puis ce poids de la pyramide dont je vous parlais, ça c'est tout un travail qui est fait par les paysans au moment de la saison sèche. Alors, on ne devine plus rien maintenant de l'existence du tombeau. Et vous voyez cette procession qui arrive. Vous entendez les conques, les tambours. On monte petit à petit cette pyramide. On arrive au sommet. On monte les 9 dernières marches. Encore un chiffre symbolique. On passe par les piliers du portique. On passe devant ces prêtres et qui portent des enfants au culte du dieu de la pluie qui sont gravés à l'entrée. On arrive petit à petit dans cette grande salle. On voit, on lit peut-être même ces 620 hiéroglyphes qui racontent toute l'histoire de Pacal le Bouclier, de son règne et de tous les gens qui l'ont précédé et de son fils futur souverain. Et puis on descend petit à petit, on soulève d'abord la grande dalle. Le cortège descend, il y a les torches qu'on allume, il y a les porteurs, il y a le cadavre qu'on dépose d'abord sur le sarcophage. La dalle est encore levée, on met tous ses ornements, on lui place son masque, ses 200 plaques de jadéite, ses yeux blancs de nacre avec l'obsidienne qui brille dans le centre. On lui a bien taillé ses dents en forme de T selon la mode maya. Il a son front bien déformé, on l'a placé à côté d'une petite statuette du dieu solaire. Et puis on glisse cette immense dalle de 5 tonnes. On voit les torches qui crépitent, on lit une dernière fois le relief, on voit non seulement Pacal au centre, exactement à l'heure de son agonie, un personnage qui est ni couché ni assis, qui se déplie gracieusement, qui est posé sur un coussin, qui est en fait le dieu de l'inframonde, comme s'il pénétrait tout à coup à l'intérieur de la terre. Et puis on voit au milieu de son corps une énorme croix qui sort, avec du maïs au bout, la végétation, la fécondité. On voit aussi tout autour des symboles qui rappellent toutes les planètes que les Mayas pouvaient observer dans le ciel, Mars, Jupiter, Vénus. On voit aussi un oiseau, le Quetzal, avec ses grandes plumes vertes qui est posé sur sa tête, qui représente l'eau, la renaissance, l'au-delà. Donc, oui, il y a tout à coup toute une philosophie qui se crée au moment de cet enterrement. Et on voit même autour de son corps ce double serpent avec 2 têtes, comme cela, qui représente sa propre vie, 52 ans, un siècle précolombien. Voilà toutes des images que vous ne connaissez peut-être pas, mais je vous les donne de manière symbolique parce que les Mayas les ont lues, les ont transmises comme cela. En résumé, l'idée de Pacal Bouclier, c'était le jaillissement de la vie, c'était le maïs, c'était la résurrection, la fécondité, tout ce que vous voulez. Et tout cela dans un cosmos plein de planètes avec la lune et le soleil. Alors, on place les dernières offrandes alimentaires, on met les 2 têtes de ses amis ou de sa famille, de ses élus. Et puis, finalement, on sacrifie ces 6 jeunes gens une fois qu'on a fermé la grande dalle de la pièce. On commence à remblayer les couloirs, ceci va prendre des semaines. Et puis la seule chose qui reste, c'est ce tout petit serpent de stuc qui est parti depuis le fond de la tombe, depuis l'intérieur du sarcophage. Ce petit conduit mental qui grimpe toutes les marches sans en rater une, qui prend le virage, qui continue la dernière volée et qui arrive finalement tout au sommet, à l'intérieur du temple. Un temple où on va pouvoir transmettre la communication avec le mort, tout comme le mort va nous transmettre son message jusqu'au monde des vivants. C'est beau comme message, c'est superbe, c'est tout simple. Mais c'est vrai que c'est l'idée de base que Pacal le Bouclier avait voulu nous laisser relier sa tombe à son propre temple. Et on va mettre les derniers petits bouchons de pierre, et ensuite il ne restera plus que la fin de la cérémonie, prier dans son temple. Cette liaison organique est créée maintenant. C'est un homme-dieu, un dieu qui a été homme, et 1260 et quelques années après, ou plus exactement 1266 ans après, il a fallu que Rousse Lullier fasse la découverte de cette tombe et retrouve le secret de Pacal le Bouclier. Et maintenant, en conclusion, je vous raconterai encore la suite de Palenque, c'est-à-dire pourquoi Pacal le Bouclier s'est considéré comme un homme-dieu et pourquoi il est dans cette tombe. Vous savez maintenant que Pascal Bouclier signifie celui qui a un bouclier pour protéger le soleil. C'est la traduction de son nom, c'est la traduction du hiéroglyphe. Eh bien, rendez-vous à Palenque. Allez à Palenque, montez sur la fameuse tour de Palenque qui se trouve sur le palais, en plein centre, une sorte de tour incroyable à étages où l'on domine tout le site, et attendez. Montez exactement le 24 décembre. C'est Noël pour nous. Nous sommes encore dans l'hémisphère nord. Donc, vous le savez déjà, c'est un moment du calendrier très important. Que va-t-il se passer? Vous allez voir le soleil descendre aux alentours des 5 heures. Vous allez voir que derrière cet écrin de végétation, derrière cette Sierra Madre que vous observez, le soleil descend exactement dans l'axe de la pyramide des inscriptions. Ou plus exactement, le soleil descend l'escalier intérieur de la pyramide des inscriptions, comme s'il suivait le parcours de l'enterrement que je viens de vous décrire. Et ce soleil va petit à petit se cacher, non pas derrière la montagne actuelle, non pas derrière les arbres actuels, mais derrière les dernières constructions. Nettoyer le site mentalement, parce qu'il y a des kilomètres carrés de sites qui n'ont pas encore été fouillés, mais on a fait des recherches avec ordinateur pour voir les formes exactes, non seulement des montagnes, mais de ce qu'étaient les pyramides et les constructions de l'époque. Le soleil se cache, et la première chose qui tombe dans l'ombre, c'est la pyramide des inscriptions où se trouve Pascal Bouclier. Pascal Bouclier a pénétré maintenant au royaume des ombres. Il est mort, il descend dans l'inframonde. C'est son trajet exact, c'est le trajet qu'il fait à l'heure du soleil couchant. Bien. La deuxième chose qui va tomber dans l'ombre, c'est le temple du soleil. Un petit temple qui se trouve maintenant un peu plus à gauche de votre vision. Et ce temple, lorsque vous y pénétrez, vous allez voir Chanbalun, son fils, et le papa en face. Le père en face, qui est déjà mort, qui est plus petit que le fils, et qui lui offre le pouvoir, comme si dans l'inframonde, il était capable de dire à son fils, on le voit sur la gravure, « Je t'offre le pouvoir ». Je m'arrête là, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. On lit tous les hiéroglyphes maintenant de Palenque. Il y a des années que nous faisons des tables rondes. Eh bien, le troisième temple qui va tomber dans l'ombre, c'est le temple de la croix. Et ce petit temple qui se trouve tout à fait à votre gauche, presque au sommet d'une colline, a le même genre de scène, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'on a même respecté le côté est-ouest du pouvoir. Le père donne maintenant le pouvoir à son fils, mais il fait en même temps surgir du grain de maïs l'idée de la fécondité, c'est-à-dire que la graine qui est maintenant en sous-sol, puisque nous sommes descendus dans le royaume des morts, cette graine de manière magique va germer et redonner la vie. C'est ça la fertilité, c'est ça l'agriculture, parce que les Mayas ont été de grands agriculteurs. Et le temps avance, il est maintenant presque 17h30, et le soleil va maintenant éclairer pour la dernière fois et la dernière minute du jour le troisième de ces petits temples qui se trouve sur une autre colline tout à fait à votre gauche. C'est le temple de la croix feuillue, et le dernier rayon du soleil va rentrer à l'intérieur du temple et éclairer deux panneaux qui font partie des linteaux internes. Sur le fond, il y a de nouveau la même scène avec papa et son fiston. Mais devant, vous allez trouver sur la gauche le fils maintenant complètement harnaché, aussi beau que Louis XIV. C'est Louis XV qui a pris le pouvoir et qui a tous ses habits de cérémonie. Et sur le panneau de droite, vous avez un vieux dieu avec une peau de jaguar, la tête toute ratatinée, qui fume un cigare. C'est la première fois que l'on voit un fumeur chez les Américains. C'est le seul exemple de fumeur. Je vous rappelle que nous sommes dans les années 600. Les Américains ont inventé le tabac, c'est vrai. Et le dernier rayon du soleil va toucher la cheville de ce dieu qui est un dieu de l'inframonde, qui est le dieu parfait des enfers, et lui donner ce dernier message. Quel message ? Nous sommes le 24 décembre, c'est la nuit la plus longue de l'année. Si par hasard la nuit continuait à gagner sur le jour, il n'y aurait plus de lumière, donc il n'y aurait plus de vie, il n'y aurait plus de calendrier. Que fait Pascal Bouclier ? Ce jour-là, tous les 24 décembre, il vous dit « Je suis le bouclier du soleil, je le défends depuis le fond de ma tombe, j'ai été enterré simplement pour renvoyer le soleil dans son trajet qui va faire que demain le jour sera plus grand qu'aujourd'hui et on partira vers le printemps. » C'est beau, non ? Ça, c'est vraiment la construction complète d'un site pour vous dire chaque année et dire au peuple maya et à nous, depuis quelques mois parce qu'on vient de découvrir, que chaque année, cet homme divinisé est capable de remettre le moteur du temps en place et de rappeler le soleil, de l'empêcher d'être mangé par l'ombre et l'obscurité. Et chaque jour, à partir de là, le soleil va éclairer un peu plus le monde jusqu'au plein été. Donc, le 24 décembre, c'est notre fête de Noël. C'est la fête de la lumière. C'est le jour le plus long, mais c'est le démarrage des jours qui rallongent. Voilà pourquoi Pascal Bouclier, en 683, a demandé qu'on lui construise une tombe et tout le site est en son honneur. C'est lui vraiment le bouclier du soleil. Ben, c'est ça que Rousse-Lullier, sans le savoir, avait découvert en 1950, en pénétrant, en descendant petit à petit ses marches, jusque auprès de cet hypogée, de la plus belle tombe que les précolombiens ne nous aient jamais offert. Voilà, c'est une conclusion qui est très belle, presque romantique une fois de plus. Nous la connaissons grâce à la lecture des hiéroglyphes, parce qu'on avance maintenant dans ces lectures des hiéroglyphes. Et cette aventure du soleil, nous la connaissons beaucoup mieux aussi parce que petit à petit, on commence à comprendre le processus de la pensée de ces précolombiens. Et en fait, Palenque, ça va même plus loin. On vient de découvrir la signification du glyphe de Palenque. Palenque, on avait simplement un motif avec une espèce de soleil sur un horizon, quelque chose d'assez étrange. Et on vient de comprendre que comme Palenque est le site le plus à l'ouest de la zone maya, on se demande même si sur le plan géographique, prenez Genève par rapport à la Suisse, Genève serait la porte du soleil couchant. Donc Palenque s'appelle, ou s'appelait peut-être, l'endroit où le soleil se meurt. Donc vous voyez que même le nom de l'endroit était peut-être en rapport avec l'histoire que je viens de vous raconter. Ce serait assez fantastique, non? Eh bien, la prochaine fois, on ira vivre... je crois que ces aventures archéologiques, c'est un domaine intéressant, c'est une façon de pénétrer petit à petit l'Eldorado, mais par notre côté, par notre façon de découvrir les choses. La prochaine fois, j'aimerais que nous suivions, pourquoi pas, Bingham, pour aller faire cette expédition assez folle le long de la plus belle rivière du Pérou, pour aller trouver là, tout au fond, dans cette jungle, à 2000 mètres, 700 mètres en dessous de vous, quand vous êtes tout au fond, au pied de l'Urubamba, aller découvrir ces constructions impossibles de Machu Picchu. Là, nous serons en 1911. C'est une belle aventure.